Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Vous écoutez le balado de l'IPS, l'émission toute désignée pour en apprendre plus sur les enjeux de santé, le développement du médicament ou démystifier la pharmacologie. Alors, bienvenue à tous. On est enfin en studio ce matin. Ça a été un petit peu plus difficile à cause des conditions météorologiques et toute une série de choses. Mais on est ce matin en studio. Je vais vous dévoiler mes invités dans deux secondes. Avec le professeur David Fortin, l'étudiante à la maîtrise en pharmacologie Juliette Latulippe, qui est dans le laboratoire de neurochirurgie avec le professeur David Fortin, et Gabrielle Charette, qui est professionnelle de recherche dans le même laboratoire avec le professeur David Fortin. On est là ce matin. Pourquoi? Parce que vous intéressez vraiment au cerveau, puis ben ça donne bien, on est la semaine du cerveau, donc aujourd'hui, on va vraiment travailler là-dedans. Alors, bienvenue pour commencer. C'est première expérience de radio pour Juliette et Gabrielle. David, je pense que c'est pas ta première messe ce matin.
Non.
Alors, pour vous faire un petit topo de ce qu'on va faire aujourd'hui, en gros, j'aimerais ça que, premièrement, vous vous présentiez, David, qui est un membre de l'IPS, justement, sur ce que vous faites dans votre laboratoire au quotidien, puis aussi, en fait, après, on va déboulonner des mythes sur le cerveau. C'est un peu ce que le titre suggère ce matin, donc on va y aller avec ça. Je commencerai peut-être par la jeune fille qui est ici ce matin, les femmes d'abord, comme on dit. Donc, Juliette Latulippe, présente-toi un peu. Tu es à la maîtrise en pharmacologie dans le laboratoire de neurochirurgie. Comment ça se conjugue, puis c'est quoi un peu, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton projet?
Comment ça se conjugue? Moi, j'ai fait mon bac en pharmacologie, donc pour moi, c'était comme une évidence de continuer un peu sur le sujet. Puis ce qui m'a vraiment toujours intéressée, c'est la cancérologie, puis le système nerveux central, plus précisément le cerveau. Donc le laboratoire de David, c'était comme un mix de mes deux intérêts principaux, donc c'était parfait. Puis mon projet, en fait, je travaille sur deux agents chimiothérapeutiques, donc le topotecan et la cytarabine, qui en ce moment sont utilisés en chimiothérapie, mais en infusion intraveineuse. Donc la chimio classique, c'est vraiment des infusions intraveineuses.
Okay.
Moi, mon projet, c'est de tester si en intra-artériel, ça pourrait avoir une efficacité plus élevée, si on veut, par rapport aux infusions intraveineuses. Donc la différence vraiment entre les veines et les artères, c'est la circulation du sang. Le sang chez les veines va se rendre au cœur pour après ça s'étendre partout dans le corps, tandis que les artères, ça part du cœur puis ça va directement vers les organes.
Donc c'est plus comme une autoroute finalement.
On peut dire ça comme ça,
oui. On dirait que c'est comme pour accélérer le traitement pour qu'il se rende à bon port finalement. Donc c'est là-dessus que tu travailles, puis plus précisément dans le cancer du cerveau, j'imagine.
C'est ça, oui, exact.
Étant donné que tu es dans le laboratoire de David. Donc c'était très intéressant. Puis qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ça, toi, en pharmacologie précisément, parce que c'est quand même large, la pharmaco, on le sait, là, on voit qu'il y a plusieurs thématiques. Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette thématique-là?
Bien, dès le début de mes études, je parle ici vraiment du secondaire, quand j'ai commencé à avoir des cours de sciences, je me suis tout de suite intéressée à la science, puis après ça, ça s'est vraiment comme mis en entonnoir avec les années, donc le cégep, tout ça. C'est une de mes amies qui m'avait parlé de la pharmacologie, parce que c'est pas nécessairement quelque chose que je connaissais énormément aux études collégiales. Donc, ça m'a intéressée. J'ai appliqué au bac ici, j'ai vraiment trippé. C'était vraiment une expérience que j'ai adorée. Donc, c'est pour ça que je voulais continuer un peu dans ce domaine-là.
Mais ce que je voulais dire aussi, pourquoi le cerveau, mettons?
Cerveau, c'est vraiment à force d'avoir des cours. Donc, j'ai eu des professeurs qui se concentraient plus sur ça, donc le système nerveux, tout ça. J'ai même eu David comme professeur à ma troisième session. Donc,
t'es-tu bon?
Écoute, non, très bon professeur, je me souviens.
Je pense que je vais y aller, moi.
Il y avait beaucoup de matière. Je me souviens que c'était un cours assez chargé, mais super intéressant. Donc, pour vrai, j'avais rien à dire. Je pense qu'il m'a aidé à développer mon intérêt pour le cerveau, là. Donc, j'ai d'autres professeurs en tête, là, mais ça a été un de mes coups de cœur aussi, là.
Ah, c'est vraiment une belle histoire, finalement, de découverte de la pharmacologie dans un premier temps, puis ensuite d'aller à la découverte de l'organe probablement le plus complexe de notre corps. Mais en fait, je dis probablement, mais David va pouvoir me corriger tout à l'heure. D'après moi, c'est le plus complexe de tout notre corps. Puis si on va du côté peut-être de Gabrielle Charette, tu travailles, toi, dans le laboratoire de David Fortin comme professionnel de recherche. C'est quoi ton rôle dans ce laboratoire-là de neurochirurgie?
Comme professionnel de recherche, j'essaie de m'assurer que le lab est capable de rouler. Donc,
je m'assure qu'on a l'équipement, les fournitures, le matériel pour travailler.
OK.
Mais aussi, vu que David est énormément du côté clinique, j'essaie de gérer aussi les demandes de fonds, je gère les projets aussi, les étudiants aussi.
Voilà. OK, OK. Donc, est-ce que tu es sur des projets en particulier ou tu es sur tous les projets finalement?
La plupart des projets. Oui, oui, la plupart.
Bien, on peut même dire que certains des projets qu'on a dans le laboratoire sont issus d'idées que Gabriel a eues.
OK.
Oui, fait que c'est un générateur d'idées aussi, Gabriel.
Un générateur d'idées. Puis là, puis en ce moment, là, admettons, si on fait un résumé, là, topo de sur quoi vous travaillez, est-ce que ce serait très long ou.
Disons, il y a deux. Bien, à part le projet que Juliette a parlé, c'est un projet qui est très intéressant, mais sinon, il y a un projet qu'on veut faire une résection tumorale, c'est-à-dire retirer la tumeur du cerveau dans un modèle animal. Et puis, couler un gel dans la cavité de résection, un gel qui va être thérapeutique.
OK.
Donc, mais thérapeutique sur trois aspects. Ça commence à être un peu compliqué, là, mais ça touche aussi plusieurs domaines comme la pharmacologie, la radiobiologie.
OK. OK. Ouais. Donc, plusieurs innovations qui vont peut-être prendre naissance de ces travaux-là qui sont dans ton laboratoire. Là.
C'est un projet assez gros. Au début, on essayait d'avoir des subventions pour travailler sur le projet au complet, puis on s'est rendu compte que c'était trop gros. Fait qu'on l'a fractionné, puis on travaille sur...
Des morceaux.
Oui.
OK, OK. Mais c'est super intéressant. Bienvenue à vous deux. Puis si on va finalement du côté du professeur David Fortin, je pense que on doit plus te présenter. Tu es quand même très connu à Sherbrooke. Ben, en tout cas, moi, je te connaissais avant de te rencontrer aussi. Si tu peux te présenter, le plus simplement possible, parce qu'on sait que ce que tu fais en tant que neurochirurgien, c'est quand même complexe, mais
Je suis pas un gars compliqué dans la vie. moi, je suis à la base... D'abord et avant tout, un neurochirurgien. Donc, mon emploi premier, c'est de m'occuper des patients qui ont des pathologies neurochirurgicales. Puis un peu, j'écoutais Juliette parler, puis je me reconnaissais dans ce qu'elle disait, parce que un peu comme Juliette, rapidement se sont conjugués l'intérêt pour les neurosciences et la cancérologie, ce qui fait que je suis devenu un neurochirurgien des tumeurs. Donc, ma job à moi, c'est de m'occuper des tumeurs, puis... Les tumeurs cérébrales, on le sait malheureusement, sont pour la plupart incurables. Donc, pour moi, ça faisait aucun sens de m'occuper de cette thématique-là sans avoir greffé à ça une entreprise de recherche. D'où l'idée de fonder le laboratoire puis de le maintenir en vie avec la contribution des gens qui m'entourent. Donc, l'aspect recherche dans notre job à nous, elle est fondamentale, elle est indissociable de ce qu'on fait. On le rappelle, malheureusement, la majorité des tumeurs cérébrales sont incurables. Puis la contribution de Gabriel, Juliette, Laurence, Laurent-Olivier, tous les gens qui sont dans le laboratoire est vraiment essentielle à imaginer un meilleur futur. Hein? Parce que l'idée, c'est qu'il faut trouver des thérapies qui sont plus efficaces que ce qu'on a actuellement. Parce que Dieu sait que malheureusement, ce qu'on peut offrir aux patients, c'est limité en ce moment.
Donc, l'objectif serait justement que ce soit plus une majorité des tumeurs qui soient incurables, là, justement, qu'on se dirige plus vers minorité.
Je pense que ça serait un manque de modestie de dire qu'on va guérir cette maladie-là. J'irais pas là, mais je dirais, si on est capable d'améliorer significativement, puis je pense qu'on l'a déjà fait, là, mais si on est capable de continuer à améliorer la survie des patients, améliorer leur qualité de vie, donc améliorer leur tolérance au traitement, on va gagner beaucoup. Puis évidemment, on espère être suffisamment grand dans cette entreprise de recherche-là pour que d'autres viennent s'appuyer sur nos épaules puis continuer à développer ce qu'on aura bâti. Mais je pense pas qu'on peut dire, nous, qu'on va trouver cure contre cette maladie-là. Ça serait très, très présomptueux d'affirmer ça, mais ceci étant, il y a du travail à faire. On a déjà amélioré le devenir des patients. Puis le but du HAB, c'est de continuer à améliorer le devenir des patients.
Mais c'est un but tout à fait louable, vraiment. Puis juste pour donner un ordre de grandeur aux gens qui nous écoutent, on en a parlé un peu tantôt hors d'onde, mais c'est combien de patients, mettons? C'est quoi la prévalence de ces tumeurs-là? Parce que là, on a l'impression, quand on côtoie de proches, votre laboratoire, qu'il y en a beaucoup, mais c'est comment...
C'est assez peu fréquent. On dit 4 à 6 cas par tranche de 100 000 de population. Donc, c'est une maladie assez rare. Et nous, on en voit beaucoup parce qu'on est un centre de référence, mais c'est un des problèmes auxquels on fait face quand on demande justement des fonds de recherche. on est une maladie beaucoup moins incidente que, par exemple, le cancer du poumon, le cancer du sein, et donc financer de la recherche pour cette maladie-là. Surtout que, en toute honnêteté, les progrès dans les 40 dernières années n'ont pas été fabulés. Bien, pour les institutions de recherche qui octroient du financement, c'est moins intéressant, je vous dirais. Donc, ça complique notre tâche pour aller chercher du financement.
OK. Donc, c'est pas
c'est pas automatique.
C'est ça, c'est pas automatique. Puis là, le gros de cette émission-là, ce que je voulais faire, parce qu'on sait que le cerveau, c'est quand même quelque chose de complexe, puis il y a beaucoup de légendes urbaines qui circulent, il y a beaucoup de mythes, les gens vont lancer des choses des fois dans les airs, puis finalement, on y croit un petit peu. On parlait d'astrologie tantôt. David aime beaucoup l'astrologie.
C'est
si vous le croisez, c'est un sujet qu'il faut que vous lui parliez absolument. Il adore ça. Il l'adore. Non, mais donc, on parlait de ça, mais des légendes urbaines, justement, des choses qui sont un petit peu dans l'histoire de la société, mais finalement, que c'est pas tout à fait vrai. Des fois, c'est complètement faux, mais des fois aussi, c'est comme une part de vérité, puis il y a des petites spécificités à ajouter.
C'est souvent ça.
ça part de quelque chose qui est peut-être vrai, mais on l'extrapole, puis finalement, ou on généralise, puis ça devient moins vrai, finalement. Donc, mon premier mythe, vous allez sûrement pas être surpris puis tomber en bas de votre chaise, on peut les regarder d'ailleurs, mais c'est de dire qu'on utilise 10 % de notre cerveau. Je sais pas si vous avez entendu ça souvent. Donc, de dire qu'il y a 90 % de notre cerveau qui fait rien, finalement. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça?
Je vous laisse commencer.
Je sais pas. Moi, je pense que c'est peut-être un mythe qui est arrivé parce que j'avais vu ça à quelque part, là, un petit moment, que quand on a des images IRM, donc par imagerie, par magnétique, par résonance, t'sais, on voit, par exemple, que faire une telle action, par exemple, quand je parle, il va y avoir une certaine partie de notre cerveau qui va être activée. Puis si on capte juste cette image-là, ben, on voit que cette partie-là, oui, est activée, mais que les autres ne sont peut-être pas nécessairement. Donc, on peut penser, ah, ben c'est juste cette région-là du cerveau qu'on va activer, mais c'est parce qu'on fait juste une action. Là. On va pas nécessairement activer les autres si on fait pas l'action demandée. Donc, j'ai peut-être l'impression que ça pourrait sortir de là. Je sais pas si tu veux rajouter.
Je pense que ça doit faire partie du mythe aussi, mais aussi, je pense que le nombre de cellules neuronales, je pense que le cerveau a à peu près ça, 10 % de neurones. Le reste, c'est des vaisseaux sanguins, des cellules de soutien qui sont importantes pour que le cerveau fonctionne, mais ça, on dit... S'il y a 10 % de neurones, on utilise 10 % de notre cerveau, c'est plus ou moins vrai, non?
Donc, toi, ce que tu disais, Juliette, c'est qu'il y a comme des ondes qui s'allument dans notre cerveau quand on fait quelque chose. Comme par exemple, moi, en ce moment, avec la console, puis les caméras, puis vous parlez, ça...
Mais le reste de ton cerveau fonctionne en temps réel, son entièreté, là.
OK.
T'sais, ce que Gabriel a dit, le mythe vient de ce que Gabriel a dit. Là. Il y a un pathologiste allemand qui a publié ses travaux qui montrait que dans le cerveau, il y avait 10 fois plus de cellules gliales que de neurones. Okay? OK, on est dans les années 40, les années 50, puis là, on apprend que, mon Dieu, dans notre tête, on n'a pas que des neurones. Le neurone qui a été décrit en 1906, là, on est dans les années 40-50, puis on se fait dire qu'il y a 10 fois plus de cellules gliales dans la tête que des neurones. Et l'adage qui veut qu'on utilise 10 % de notre cerveau vient de là.
OK.
Mais c'est tellement faux. En fait, pas seulement parce que les neurones, on les utilise tous en temps réel, mais on vient de caractériser le fait dans les dernières années que même les cellules gliales, ces fameuses cellules de support-là, participent aussi au processus cognitif.
OK.
Donc, c'est effectivement une légende urbaine qui a absolument rien de fondé.
Fait que les cellules gliales, si je fais une analogie, c'est comme un peu les adjointes administratives des neurones.
Ouais.
Ils viennent supporter un peu où les professionnels de recherche des neurones, mettons, qui vont venir supporter le travail, c'est ça?
Bien, ça va au-delà de ça, hein, parce que ça voudrait dire que mon professionnel de recherche m'a élevé, a changé ma couche, parce que c'est vraiment ça. Les cellules gliales
ça,
vont
non?
entretenir...
Ouais.
Non,
je pense que lui ne désire pas ça. Moi non plus. Ben, tu sais,
éventuellement, peut-être.
Quand je vais être rendu en CHSLD, c'est ça. Non, les cellules gliales, essentiellement, sont responsables de la migration des neurones à bon port lors de l'embryogenèse, vont assurer leur cohésion, vont assurer leur nutrition, leur protection en cas d'inflammation. Puis là, on apprend qu'ils vont participer aux échanges, à certains échanges cognitifs, en rééquilibrant les neurotransmetteurs. Donc, puis j'ai oublié de mentionner une chose importante pour nous autres, mais les cellules gliales, c'est d'autant plus des cellules intéressantes pour nous dans le labo parce que ce sont les cellules qui vont produire les tumeurs cérébrales.
C'est là-dedans que les cancers vont...
Exactement.
C'est ces cellules-là qui vont devenir anormales puis qui vont développer des tumeurs.
C'est ça. Donc, c'est des cellules doublement d'intérêt pour nous parce que c'est malheureusement ces cellules-là qu'on essaie, nous, d'éliminer lorsqu'un patient développe une tumeur.
Puis ça, on en a 10 fois plus que des neurones.
Exact.
C'est pas encourageant, hein, finalement. Mm. OK. Puis, par exemple, si je vous demande, parce que là, on parlait de tâches, là, moi, ça m'intéressait beaucoup, mais pourquoi il y a des gens qui sont plus habiles multitâches, tu sais, qui vont être plus capables facilement de... comment dire, de faire plusieurs choses en même temps, là, de se flatter à bedaine en se tapant la tête ou je sais pas trop quoi, là, tu sais, des gens qui sont plus les drummers ou, tu sais, qui sont capables de faire plusieurs choses en même temps, c'est qu'est-ce qui fait dans le cerveau que, de ces personnes-là qui seraient meilleures ou est-ce que c'est parce qu'ils sont pratiqués? Est-ce que...
Est-ce quelqu'un qui veut essayer de répondre?
moi, je fais pas de musique. Oui.
Ben, je pense qu'à aussi, à force de pratiquer, on peut développer certaines parties du cerveau, les épaissir un peu le cortex, donc dépendant de la région. Puis ça, ça peut nous aider à devenir meilleur, mais je n'irai pas m'aventurer plus loin.
On reste réservé.
Oui, on reste réservé un petit peu.
Le cerveau, il y a une capacité extraordinaire qu'on appelle... Tu as parlé d'épaississement du cortex. Mm-hmm. Donc, ça se fait, mais le plus important, ce n'est pas ça, c'est dans les connexions. Donc, la synaptogenèse, mm-hmm. la possibilité... de faire des nouvelles synapses. Ça, les synapses, c'est des connexions entre des neurones.
Okay.
Puis ce processus-là, il est extrêmement actif tout au long de notre vie, contrairement à ce qu'on pensait. Je dis, si on pensait que les personnes âgées ne faisaient plus de synaptogenèse, on sait que c'est pas vrai.
Okay.
Mais c'est d'autant plus actif en bas âge. Puis, tu sais, tantôt, Gabriel disait, moi, je fais pas de musique. Mais c'est un excellent exemple parce que justement, tu as parlé de drummer, on pourrait parler de pianiste. Les gens qui commencent à pratiquer des activités bimanuelles, comme ça, drum, musique, etc., piano, vont être beaucoup plus aptes à le faire s'ils développent l'activité en jeune âge, parce que là, la capacité de synaptogenèse, elle est en explosion.
Okay.
En fait, c'est bizarre, hein, mais notre cerveau, il se développe. Là, à l'adolescence, on forme trop de synapses. Puis après ça, on a un processus qui s'appelle l'élagage synaptique, où là, on va éliminer toutes les connexions neuronales qu'on n'utilise pas. Fait que si, en jeune âge, autour de 6-8 ans, on se met à développer une activité, bien là, on va consolider ces réseaux-là, puis on va être très, très proéminent dans ces activités-là. Alors que si moi, j'ai 55 ans, là, si j'essaye d'apprendre le piano à 55 ans, bien, je peux te dire que je vais avoir de la misère, malheureusement.
C'est pas impossible, mais ça va être plus ardu. Comme apprendre des nouvelles langues, j'avais entendu aussi plus tard dans la vie, ça devient plus difficile. Puis là, on parlait justement de... Bien, là, ça, c'est toute la plasticité du cerveau. Hein. Je pense qu'on en avait parlé ensemble. C'est Puis ça, c'est un autre mythe. Ils disent...
Mais juste finir sur ce que tu demandais tantôt, là, la capacité de faire du multitâche, ça, il y a une capacité... Il y a un réseau fonctionnel cognitif dans le cerveau.
OK.
OK, qu'on appelle le réseau de la mémoire exécutive, qui est responsable du trafic de l'information dans le cerveau. Et de toute évidence, les gens qui sont bons à faire du multitasking ont un excellent réseau de fonctions exécutives. Donc, c'est comme Juliette l'a mentionné, je pense que ces gens-là, ils l'ont pratiqué ou pour X raisons, sans même le savoir, ils l'ont développé, cette capacité-là.
OK. Puis il y a des gens, comme on parlait de TDAH tantôt, qui ont des problèmes au niveau exécutif, justement, mm-hmm. du système exécutif. Puis là, c'est là que ça le bas blesse, si on veut. Là.
Exact.
OK, je comprends un petit peu mieux. Puis ça me ramenait à un autre mythe qu'il y avait dans ma liste, tu sais, qui disait justement, puis là, je pense que tu as répondu un petit peu, mais qui disait qu'après 20 ans, ben on est comme sur la pente descendante, là, qu'il n'y a plus rien qui se fait, puis qu'on fait juste dégénérer, mettons. Puis ça, j'espère vraiment que c'est pas vrai. Est-ce que vous voulez déboulonner ça, s'il vous plaît? J'ai 35 ans. J'aimerais ça me dire que ça fait pas 15 ans que je me dégénère.
Ben, c'est sûr qu'à force de vieillir, c'est sûr que le cerveau va se dégénérer tranquillement.
Ouais.
20 ans, par contre, je sais pas. Mais c'est sûr que le cerveau d'une personne de 20 ans puis le cerveau d'une personne de 80-90 ans, ce sera pas pareil. Là,
merci, t'es gentil de ramener ça plus loin. Comme ça, je me sens moins visée. Mais David, t'avais pas l'air d'accord avec...
Non, ben en fait, je suis entièrement d'accord avec ce que Juliette a dit, mais il y a une différence entre ce qu'on voit anatomiquement puis la fonction. Puis c'est vrai que j'ai revisé un papier dans Nature la semaine passée là-dessus parce que je donnais une présentation sur le cerveau qui vieillit.
Okay.
Puis effectivement, c'est pas un mythe. Hein? Le cerveau, il atteint son apogée entre 20 et 28 ans. Donc, puis quand on parle d'apogée, on parle de facteurs morphologiques. Donc, l'épaisseur...
La grosseur.
L'épaisseur du cortex, le nombre de connexions entre les neurones. Puis après ça, lentement, on va se mettre à perdre des neurones. Tout le monde. Ça, c'est vrai pour tout le monde. À partir de 25 ans, 28 ans, notre cerveau commence à lentement élaguer des neurones, des connexions entre les neurones. et on développe en vieillissant de l'atrophie. Mm. Mais c'est pas parce qu'on a un cerveau plus petit que notre cerveau est moins efficace. Et le plus bel exemple qu'on peut donner, d'ailleurs, j'en parle dans mon deuxième livre qui va sortir, on en reparlera plus tard, là, mais c'est le cerveau d'Einstein.
Il était petit, hein, je pense.
C'était un cerveau qui était sous la moyenne. Et s'il y avait quelqu'un dans notre histoire contemporaine qui avait une capacité d'abstraction extraordinaire, c'était bel et bien Einstein.
C'est vrai.
Donc la grosseur du cerveau, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est plus intelligent. Mais c'est vrai, comme Juliette a dit, que les paramètres de notre cerveau se mettent à décliner après 25 ans. Puis ça, c'est pas un mythe.
Puis ce que tu disais tantôt par rapport à l'adolescence, que le bureau... Moi, ce que je voyais, c'était un bureau d'ordinateur plein. Tu sais, là, tu disais, on fait trop de connexions synaptiques ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais là, puis c'est comme si on faisait le ménage à notre bureau, rendu à l'âge adulte, disait, bon, ça, c'est pas utile, ça, c'est pas utile, ça, je peux jeter ça, ça, je peux jeter ça. Puis on garde juste vraiment ce qui est pertinent sur notre bureau.
C'est une très bonne analogie, je dirais.
Oui, j'avais bien compris. Là, c'est comme si on garde juste ce qui est pertinent.
Elle est tellement bonne que je pense que je vais te la voler.
Je la donne.
Je vais la mettre dans mes conférences. C'est une excellente analogie.
OK, mais ouais. C'est ça. C'est comme on fait souvent ça, les ménages de bureau. Là, tu sais, puis oui, ça serait. Ben, je la donne. Je la donne. C'est cadeau. Mmh. Ça me surprend. Puis d'ailleurs, à l'adolescence, il y a des fils qui se touchent des fois aussi. Donc, ça c'est moins surprenant.
Pas juste à l'adolescence.
Autre mythe. On passe à l'autre mythe. Puis là, je vais entendre Gabriel là-dessus. Bien, si tu es capable de me répondre, bien sûr. Mais l'hémisphère droit serait créatif et l'hémisphère gauche est logique. Puis chez tout le monde, il y a une dominante. Fait que ça veut dire que toi, t'es plus hémisphère gauche, l'autre est plus hémisphère droit. Ça, on dirait un peu de l'astrologie, je trouve.
On dirait de l'astrologie. Je pense que c'est généralement vrai. Mais je pense que c'est l'inverse pour certains individus que les hémisphères... ont différentes fonctions, soit plus logique ou plus artistique. Mais je suis supposé de savoir ça. Là, je vais-tu perdre ma job?
c'est un sujet trop ambigu pour coincer quelqu'un là-dessus.
Désolé. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que... Non. OK.
en fait, on a deux hémisphères dans notre cerveau, puis les deux hémisphères ont des spécialisations. Ça, c'est vrai. Donc, classiquement, on va dire de l'hémisphère gauche pour tous les droitiers que c'est l'hémisphère du langage, l'hémisphère qui contient toutes les fonctions du langage, mais surtout, d'abord et avant tout, la mémoire lexicale et la mémoire des faits.
À droite.
À gauche. Les droitiers. Je parle pas des gauchers, parce que les gauchers, ils sont, en bon québécois, tout fuckés. On reviendra là-dessus tantôt.
C'est une neurodiversité, oui.
C'est ça. Puis l'autre hémisphère, l'hémisphère droit, ben, c'est un hémisphère dont la spécialisation opère dans les sphères visuo-spatiales. Donc, c'est un hémisphère qui est impliqué dans nos déplacements dans l'espace, dans notre cartographie, géographie, puis dans tout ce qui est artistique. Fait que notre mémoire artistique, classiquement, puis notre mémoire géographique est à droite. Ceci étant, les deux hémisphères sont toujours en communication. Hein. On n'a pas un hémisphère qui travaille en vase clos puis qui essaie de prendre le dessus sur l'autre. Les deux se parlent toujours via un paquet de fibres d'une complexité incroyable. On a 300 millions de fibres qui relient les deux hémisphères qu'on appelle le corps calleux.
OK.
Puis, tu sais, de dire que quelqu'un est hémisphère gauche ou hémisphère droit, c'est un peu n'importe quoi. Parce que moi, je peux vous dire que comme neurochirurgien, alors que j'opère un patient droitier qui devrait avoir son langage à gauche, ça m'arrive de faire des chirurgies à droite puis de voir des impacts sur le langage. Il faut arrêter de voir le cerveau sous forme modulaire parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, un cerveau. Ça fonctionne en globalité. Okay. On va dire du cerveau qui est holistique, qui est global. Puis les grands réseaux sont redistribués à travers les deux hémisphères. Puis il n'y a pas un hémisphère qui travaille de manière isolée, en vase clos.
Donc, personne n'a un cerveau comme une joueuse de tennis, mettons. Là, t'sais, là, vraiment musclé à droite ou vraiment musclé à gauche parce qu'elle est tout en train de taper du même bord. Là. Donc, ce serait faux. Mais ça, c'est quand même...
C'est complètement faux.
OK, c'est vraiment intéressant de déboulonner ces mythes-là. Puis là, tu as répondu tantôt aussi, un autre mythe qui est populaire, c'est l'intelligence ne dépend pas de la grosseur du cerveau. Les gens vont penser que tu as un gros cerveau, tu es plus intelligent, mais il y a des gens qui ont un gros cerveau qui peuvent être vraiment niaiseux, de ce que je comprends.
Bien, comme des gens qui ont des gros bras qui peuvent être...
Oui, ça, c'est plus fréquent.
Pas si fort que ça, nécessairement. C'est ça que je voulais dire.
OK. on en a parlé un petit peu tantôt aussi. Le fameux cerveau reptilien. Puis j'ai beaucoup aimé la façon que tu l'as expliqué, si je me souviens, là, des trois cerveaux, là, l'évolution.
En fait, le cerveau reptilien, c'est une invention d'un neuroscientifique qui, dans les années 70, voulait donner une forme simple à l'évolution des cerveaux. Puis il a dit, il a inventé le concept du cerveau triunique. Donc, on aurait trois cerveaux dans notre tête. Le cerveau reptilien serait le tronc cérébral, serait le cerveau primitif. Ensuite de ça, il y aurait le cerveau limbique, qui serait le cerveau des mammifères. Puis finalement, le cerveau cortical ou néocortical, qui serait le cerveau des grands singes. Ça, c'est nous autres,
c'est les grands singes.
Mais c'est une manière intéressante, mais extrêmement simplifiée de voir le processus évolutif, parce que le processus évolutif, c'est pas fait par bond comme ça. C'est un continuum très, très long.
Oui.
Puis, effectivement, on va retrouver des troncs cérébrales chez des espèces beaucoup moins évoluées, puis on ne retrouvera pas de néocortex chez les reptiles. Ça, c'est vrai. Mais entre le néocortex puis le tronc cérébral du cerveau reptilien, il y a toute une panoplie de changements qui se sont opérés au fil de millions d'années qui ont mené ultimement au cerveau qu'on connaît, qui est notre cerveau néocortical chez les êtres humains, qui, pour l'instant... Semblerait-il. Des fois, on regarde certaines personnes, puis il y a lieu d'en douter. Là. Je pense à Trump, par exemple.
Ben, j'allais le nommer, là.
C'est ça. Mais, Trump puis Poutine. Mais bon, bref, ça serait le pinacle de l'évolution, semble-t-il.
OK. Puis ça va continuer. Donc, si je comprends, parce que là, on a évolué depuis des milliards d'années et ça va continuer à évoluer aussi. T'sais, comme moi, je pense souvent... Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, je vais vous engager un petit peu, mais on est beaucoup stimulé hein, en 2023. Tu sais, toutes les espèces... depuis 1995, avec l'avènement d'Internet, on a développé beaucoup, beaucoup de... comment dire, d'applications. Là, on ne sait plus si on a reçu un courriel par Outlook, par Teams, Messenger, Snapchat, Instagram, puis je ne les nomme pas toutes. Là. On n'est pas... J'ai l'impression, moi... personnellement, qu'on n'est pas adapté à cette stimulation-là constante, les publicités, tout ça. Puis je me demandais, est-ce que selon vous, philosophiquement, mettons qu'on tombe dans la philosophie, notre cerveau va évoluer pour qu'on s'adapte à cette stimulation-là qui est vraiment... qui dépasse l'entendement depuis mettons, les derniers 30 ans?
Bien, il y a toujours de l'évolution qui se fait, mais moi, c'est clair que je ne veux pas évoluer là-dedans. Là, ça va être trop compliqué.
Comment ça? Mais t'aimerais pas ça, mettons, être capable de surfer sur cette stimulation-là sans être fatigué?
L'idée d'avoir une multitude de plateformes de communication, je sais pas, ça ne m'attire pas, mais il y en a, on dirait que plus qu'ils ont de moyens de communiquer, plus qu'ils se sentent impliqués ou ils ont comme un genre de plaisir là-dedans, mais bon.
Mais toi, ce ne serait pas quelque chose que tu viserais, mais est-ce que tu penses plus philosophiquement que l'être humain va s'adapter à cette surstimulation-là qu'on vit à tous les jours, finalement?
L'adaptation, on s'adapte à tout, je pense.
On s'adapterait à ça comme on s'est adapté à bien d'autres choses avant.
Ouais.
Toi, Juliette...
Un peu dans la même lignée d'idées, on s'adapte dépendant de ce à quoi on fait face à tous les jours. C'est pas pour rien qu'on a de moins en moins dans de sagesse, on mange plus autant de viande comme dans le temps. Là, on s'adapte avec le fil des années à notre quotidien, à ce qu'on vit en tant qu'être humain. Là. Donc je pense aussi qu'il va y avoir une certaine adaptation là, de ce côté-là.
De ce côté-là. Puis ça prendrait combien de temps, selon vous, avant qu'on soit adapté à cette stimulation-là?
Ça, c'est une très bonne question.
Moi, je pense qu'il y a une différence entre adaptation et évolution. Il faut clarifier les termes.
Okay?
C'est pas la même chose. Puis, je suis d'accord avec ce que mes collègues viennent de dire au sujet de l'adaptation, au sujet de l'évolution. Je veux pas mélanger les termes.
Okay.
Je viens de passer à travers un super papier, vraiment, vraiment intéressant, parce que moi, les papiers, je trouve les plus intéressants, c'est les papiers neuroscientifiques qui mélangent justement des aspects philosophiques.
Puis, comme
ce chercheur-là, qui est un peu comme dans le livre. Ce chercheur-là, qui est un type d'Australie, lui, il essaie de comprendre comment le cerveau va continuer à évoluer dans le temps. Puis il dit essentiellement, un cerveau performant, c'est quoi? Il y a deux déterminants. Un, le nombre de neurones connectés entre eux.
OK.
Puis deux, un élément qu'il ne faut pas oublier, le temps de latence. C'est-à-dire le temps que ça prend entre les neurones pour communiquer entre eux. Puis plus un cerveau va être grand, plus les fibres qui relient les neurones vont être longues, moins le cerveau va devenir performant. Mmh. Fait que lui, il dit, il y a une limite au volume qu'un cerveau va atteindre et demeurer performant. Puis pour lui, au-delà de 3000 cm3, on dépasse cette limite-là.
OK.
On va être dépassé ça. C'est que le double d'un cerveau humain normal en ce moment va devenir contraint à cause du temps de latence des connexions entre les neurones, va devenir contraint puis va voir sa performance diminuer. Donc, il va avoir une limite à l'évolution. Maintenant, tous les gadgets technologiques qu'on vient de mentionner, là, ce sont des éléments perturbateurs bien identifiés. Là. Donc, oui, on s'adapte à ça, mais ce n'est pas nécessairement toujours des bonnes nouvelles. À titre d'exemple, il y a des études très, très claires qui montrent que la capacité de lecture des jeunes enfants, de même que leur vocabulaire, se sont grandement effondrés dans les 10 dernières années.
Écriture aussi.
Oui, exact. Donc, nos enfants sont moins bons à lire, à écrire, à communiquer. Leur vocabulaire s'est appauvri. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est quand même fantastique d'avoir l'Internet au bout des mains puis de pouvoir fouiller puis aller chercher n'importe quelle réponse en temps réel. Donc, c'est un outil qui peut être potentiellement utile si utilisé à bon escient. Mais tout ce qui est réseaux sociaux, vie en temps réel avec tous ces espèces de contacts sociaux factices-là, ça, c'est très, très mauvais pour la santé mentale. C'est très mauvais pour... C'est très mauvais pour les émotions, la gestion des émotions. Puis ça, c'est démontré, là. Les gens ont un vécu émotif qui s'appauvrit. Puis ça, c'est d'autant plus vrai. C'est directement proportionnel au temps qu'ils passent sur les médias sociaux, là. Parce que tout ce qui est sur les médias sociaux, c'est faux. Hein? Mm-hmm. Faut réaliser ça.
On met pas nos échecs là-dessus, là.
Exactement. Je vais pas me mettre une photo. Je vais pas me faire un égo portrait de moi en train de brailler brailler ma vie parce que j'ai connu un échec. Par contre, je viens d'avoir un chat. Hey, là, je mets des photos de mon nouveau chat parce que je suis bien fier de mon chat. J'ai l'air bien heureux. Mais je vous montre pas quand il me réveille dans le milieu de la nuit. Là, je suis choqué.
Ou quand il a vomi à terre. Puis ouais, c'est ça qu'il faut que tu ramasses.
Ça m'est pas arrivé encore.
Pas encore. Ça va venir. Mais c'est important. C'est ça ce que tu dis. Parce que oui, j'ai vu une étude qui est passée récemment à l'université. Je sais pas si c'est de celle-là que tu parlais, mais les écrans pour les enfants les empêcheraient de gérer convenablement leurs émotions à long terme. Donc, si mettons, chaque fois que ton enfant écrit, tu le mets devant la TV en réponse,
J'aime pas le terme écran. Encore une fois, on mélange des termes parce que plugger un enfant devant une TV puis le mettre devant un iPad, c'est deux choses bien différentes.
OK.
Puis, tu sais, effectivement, tu as raison de mentionner écran parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'études qui parlent de temps d'écran. Puis là, dernièrement, on voit des études commencer à différencier le type d'écran parce que ça a son importance. Fait que, tu sais, moi, je veux dire, j'ai 55 ans, mais j'ai connu ça, la TV, là, hein, quand même. Je suis pas si vieux que ça.
Quand t'étais faite en bois, là, puis qu'il fait...
Oui, avec des gros pitons, puis...
Puis qu'il y avait de la statique dans les cheveux, là.
Mais moi, ça m'est arrivé... Ouais, quand j'avais des cheveux, c'est ça. Mais moi, ça m'est arrivé de me faire plugger devant la TV, là, puis d'aimer ça, puis d'apprécier ça, puis ça nous est tous arrivé. Il y a une différence entre écouter une émission qui est produite avec un certain narratif, puis soi-même prendre part à un narratif qui est faux sur les médias sociaux. C'est pas la même affaire.
C'est deux types d'écrans différents.
Tout à comme,
tu sais, le temps qu'on passe, par exemple, Juliette, devant ton écran pour faire ton mémoire, c'est pas aussi dommageable pour ton cerveau parce que tu réfléchis puis tu fais travailler ton cerveau plus que si t'es devant TikTok avec la bave sur le bord de la bouche. C'est un peu ça.
Puis l'autre affaire, c'est que Juliette, quand elle a besoin de faire ses recherches, tout comme Gabriel, ils ont facilement accès via l'ordinateur à des banques de données. Ils vont chercher leur papier, extraire leur papier, alors que jadis, nous autres, avant que tout ça existe, faut pas oublier, là, l'Internet, c'est une invention 95-96. Mais avant ça, là, on allait à la bibliothèque, il fallait chercher les petites fiches signalétiques, puis aller chercher après ça nos revues dans les étagères, les imprimer. On perdait un temps fou à faire cette recherche-là. Donc, il y a quand même des aspects fortement positifs.
Oui, mais en même temps, il y a des aspects fortement positifs, mais tu sais, ce qu'on discute, nous, en communication, c'est que c'est le fun, mais ce qui est un peu frustrant quand tu fais soit une thèse ou une maîtrise, c'est que tu liras jamais tout. Tu liras jamais tout ce qui se fait. Parce que là, on est rendu mondialisé, on est rendu, tu sais, fait que j'avais des chercheurs qui faisaient des recherches par rapport à la COVID puis à l'influence de la pandémie sur la société, tout ça, puis ils sortaient à peu près 100 articles par jour. Donc, tu sais, c'est comment tu fais pour tenir, le rythme. Puis c'est un peu ça aussi, la surstimulation, là.
Mais en même temps, tu sais, à l'époque, on n'avait pas accès, par exemple, à la recherche qui se faisait en Corée du Sud, pour dire quelque chose, ou en Chine, ou... Puis... C'est pas parce que la recherche qui se fait là est pas intéressante, c'est, tu sais, il faut qu'on puisse y avoir accès. Puis là, t'as raison, ça nous prend des outils pour nous aider à
filtrer
tout ça, exactement.
Oui, puis c'est, peut-être que notre cerveau, finalement, si on est encore dans cette discussion-là, va peut-être nous aider à mieux filtrer avec le temps. Peut-être qu'on va évoluer de façon à ce que notre cerveau soit un meilleur filtreur. Parce que là, en ce moment, on dirait qu'on est comme attaqué par toutes les stimulations. On est obligé de fermer, de mettre en mode avion pour avoir la paix, finalement. Là. Mais peut-être que notre cerveau, au fil du temps, va ignorer certaines stimulations, va être meilleur pour filtrer. Peut-être, moi, c'est mon... Je fais mon guess de fille qui n'est pas du tout en neurochirurgie ou qui n'étudie pas le cerveau, mais moi, j'ai l'impression peut-être que c'est ce filtre-là. Parce qu'on ne pourra pas, comme tu dis, développer un plus gros cerveau. À un moment donné, il y a des limites. Mais peut-être développer un cerveau qui est plus... qui a une gymnastique de filtrage plus efficace.
Ben, tu as déjà une structure dans ton cerveau qui filtre tous les influx sensitifs, là, qu'on appelle le thalamus. Puis j'imagine que cette structure-là qui s'occupe de synchroniser tous les grands réseaux cognitifs va effectivement évoluer et nous permettre d'assurer une meilleure attention sur ces tâches électroniques-là qu'on fait, qu'on vient conjuguer aux tâches quotidiennes régulières.
Oui, ça va être vraiment intéressant ce qui est à venir pour notre petit organe, ben, notre gros organe très complexe qu'on a dans le cerveau. On est déjà...
L'objet le plus complexe connu dans l'univers.
Oh, quand même.
By the way,
là. Puis ça fait penser que j'ai ici, je ne sais pas si on va le voir... Donc, j'ai le livre en studio ici, « Le cerveau, une galaxie dans votre tête », qui est écrit par le professeur David Fortin, qui est assis juste ici. Ce livre-là, en fait, je l'ai lu moi-même, puis j'ai trouvé très, très bon. C'est sûr, comme on dit, il y a eu certaines critiques parce que c'est faut quand même réfléchir, mais c'est bon, justement, à place de vous mettre devant TikTok, là, lire ça, là, ça pourrait être bon pour votre cerveau, pour la plasticité, puis développer vos connaissances. C'est bien vulgarisé, parce que moi-même, je suis quelqu'un qui vulgarise, puis moi, j'ai trouvé ça très bien vulgarisé. C'est sûr que... Des fois, il faut réfléchir un petit peu, mais c'est juste bon pour notre cerveau, finalement, parce qu'on est souvent devant la télé et à pas réfléchir. Fait que pourquoi pas? J'encourage les gens à aller le lire. Puis, ben, on va peut-être faire un petit spoiler ce matin. Il y a un deuxième tome qui s'en vient, là. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, peut-être, pour les auditeurs?
Oui, ben, mon deuxième livre va sortir en fait le 29 avril 2023, donc dans un peu plus qu'un mois. Puis, ça va être beaucoup plus digestible que celui-là. Hein? Celui-là, c'est un livre didactique pour ceux qui veulent savoir ce qu'est le cerveau. Le deuxième livre, c'est plus une discussion sur le temps qui... C'est plus, beaucoup plus philosophique. Une discussion sur le temps qui passe, ce qui se passe dans notre société du côté de la santé, essentiellement, puis ce qui se passe dans un cerveau qui vieillit. Mmh. Fait que c'est un peu de ça dont ça va traiter essentiellement.
Donc plus le côté philosophique, le côté conscience qui terminait le premier tome. Comme tu dis, c'était plus une espèce de par module là, pour découvrir un peu la composition de notre cerveau. Puis ça se terminait sur un dernier chapitre qui était vraiment sur la conscience, plus philosophique. Mmh. Puis d'ailleurs, ça me permet de plugger aussi. On est dans la semaine du cerveau, il y a des activités qui se passent. Puis demain soir, au Granada, professeur David Fortin va être là avec Mathieu Fortin en philosophie. Puis je parle
longtemps. Pierre-Marc Jaudoin.
Puis on va discuter de philosophie puis de conscience. Puis si vous avez aimé ce qu'on a abordé aujourd'hui dans cette entrevue-là, puis vous voulez en entendre plus, bien, ce serait une belle activité demain au Granada. À quelle heure, rappelle-moi?
19h.
Demain à 19h, c'est gratuit.
Oui.
Puis c'est vraiment une belle activité pour en apprendre plus justement sur l'aspect plus philosophique, plus conscience en lien avec notre cerveau.
Puis d'ailleurs, je vais avoir des copies des livres. Là. Jérôme m'a demandé d'amener des copies des livres pour ceux qui en veulent. Donc, on va les vendre évidemment. Là. On va les vendre 25 $, mais s'il y en a qui en veulent, on va en avoir sur place.
Moi, je le conseille vivement. C'est vraiment intéressant parce qu'on en apprend. C'est à la portée des gens. C'est dense, mais c'est à la portée de monsieur, madame, tout le monde qui veut comprendre un peu plus qu'est-ce qu'il y a dans sa caboche finalement.
Ben, c'était le but. Initialement, là, le but c'était de l'écrire pour monsieur et madame tout le monde.
Puis c'est réussi. Ça ne veut pas dire que parce qu'il faut réfléchir, c'est pas bien.
La critique que j'entends souvent, c'est que les gens disent c'est très dense. Je ne vais pas lire 4 chapitres d'une claque. Puis je comprends. C'est bon.
Ben, c'est correct aussi.
Lire un chapitre par soir.
Une fois de temps en temps. T'sais.
C'est ça.
Puis ben, sinon, pour le reste de la semaine aussi, ce soir, je pense que tu vas être là aussi au Bistro Brain. Puis ensuite, à 19h30, dans le cadre de la semaine du cerveau, sans des Neurosciences organise une dégustation de bière au Boc. On en a parlé jeudi dernier à l'émission avec un spécialiste de l'olfaction. Donc, ça va être intéressant aussi de déguster la bière peut-être d'une autre façon qu'on la déguste habituellement. C'est des shooters, mais on va prendre le temps vraiment de sentir ça puis de voir ce qui se passe dans le cerveau. Puis vendredi et samedi, ben je prends le temps de le dire aussi. Je ne sais pas si que certains d'entre vous qui vont être là, mais il y a la foire sur le cerveau. Juliette, tu...
Non, je ne serai pas là, mais j'en ai entendu parler. Ouais, ça risque d'être intéressant.
Oui, j'étais allée l'année passée, c'était super. Il y avait même une machine qui avait été amenée là pour le cerveau. Là, je parle le nom, l'IRM.
L'IRG.
Oui, c'est ben, un IRM, en fait, mais petit pour les animaux, en tout cas.
Ah, ouais.
Bref, ça avait été amené au Carrefour. Là, cette année, il va y avoir un petit train, Jérôme m'a dit, pour raconter des histoires sur le cerveau, qui va se promener dans le Carrefour pour les enfants. Il va y avoir plein d'expériences. On va vraiment mettre les mains dans la science. Donc, c'est intéressant. Je vous encourage à y aller vendredi en fin de journée, puis samedi toute la journée. Donc, c'est à la place du Père Noël au Carrefour. Donc, au milieu, en avant du Toys R Us, t'as le Ross encore à côté, c'est une petite baisse de glycémie. Puis, donc, on a vraiment un beau spot. C'est vraiment une belle occasion de toucher à la science un petit peu parce qu'on se rend compte dans notre société que, ben, peut-être, on en parlait tantôt philosophiquement avec David, Juliette et Gabriel, mais les gens sont pas nécessairement en contact avec la science souvent. Puis, je trouve que c'est une belle semaine pour se mettre en contact avec, avec la science. Mais voilà. Donc, je tenais à le rappeler. Puis là, bon, on est à la fin de l'entrevue déjà. Je vous remercie tous les trois pour votre présence. C'est vraiment apprécié. Les gens aiment à l'IPS, justement, entendre parler de nos membres, puis aussi des étudiantes et des professionnels de recherche, puis savoir un peu qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est super apprécié. Puis, bien, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, puis à une prochaine fois peut-être pour le deuxième tome qui s'en vient. Donc, on a fait un petit spoiler, mais d'après moi, ça va être aussi excellent que le premier. Alors, ben, bonne fin de journée à tous, puis à la prochaine.
Merci.
Merci beaucoup. Merci.
Au revoir.